RNV. Il est temps de s'intéresser à une nouvelle édition de notre chronique Voyage Voyage. Et pour ce faire, je suis bien sûr avec Françoise. Salut Françoise.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Mais super bien.
Avec toi, bien sûr, on va partir à l'aventure. Je me rappelle que la dernière fois, on était parti très loin, presque à l'autre bout de la Terre, en Inde. Et cette fois, on va aller un petit peu moins loin puisqu'on part dans le Zélande. Alors attention, pas le Zélande, évidemment, de l'autre côté du lac de Neuchâtel. Le Zélande a un petit peu plus loin. Le Zélande, où est-ce ?
Eh bien, c'est une région du Danemark qui se situe dans les alentours de sa capitale, de Copenhague.
Ok, Zélande, on imagine que c'est proche de l'eau ?
Alors, il y a beaucoup, effectivement, de côtes. Il y a la mer Baltique. C'est très maritime, effectivement.
Je crois savoir que si tu es allé là-bas, dans un premier temps, c'était une histoire de musique.
Ben, on avait prévu de faire une édition d'Orgue et Dessin. On a déjà parlé d'Orgue et Dessin. Mm-hmm. C'était le 10e anniversaire, donc il fallait frapper un grand coup. Et j'avais demandé de pouvoir aller voir et entendre jouer ce fameux orgue fait par le facteur Isaiah Compenius, qui date de 1610,
incroyable,
qui est dans le château de Frederiksborg, qui est donc à 40 km au nord de Copenhague.
Tu me disais, un orgue qui est un peu particulier, puisque évidemment déjà il a un âge respectable, mais aussi une taille assez impressionnante.
Alors, il n'est pas grand en taille, mais en facture, c'est comme un bijou. Vraiment, il y a plein de petits tiroirs magiques qui s'ouvrent. On avait donc choisi d'y aller avec mes compagnes de dessin parce que finalement, on n'a pas eu l'autorisation de pouvoir y accéder. Mm-hmm. Mais on a rencontré le titulaire. On a aussi compris qu'il avait envie d'expliquer lui-même l'histoire de cet instrument. Et puis surtout, il faut le pomper. Il n'y a pas d'électricité.
Ça, c'est assez dingue. Donc, il faut deux personnes pour pouvoir en jouer.
Absolument. Et celle qui pompe est aussi importante que celle qui joue. Donc, c'est des gros soufflets qui sont actionnés par des cordes qui sont à l'arrière de l'instrument. Donc, il est joué une heure par semaine, le jeudi à 13h30. Et donc, évidemment, que j'étais au garde à vous devant l'instrument, mon moment avant. Tellement je me réjouissais. On a des fantasmes comme ça, de lieux, d'objets qu'on a absolument envie de rencontrer un jour. Je tiens d'ailleurs à avoir une liste non close le jour où je m'en irai pour mon plus grand voyage, parce que je trouve que c'est toujours chouette d'avoir encore des choses à voir et à découvrir. Donc voilà. Il avait beaucoup d'humour, ce monsieur Compenius, facteur donc, du début du XVIIe, parce qu'il a réussi à caser 1001 tuyaux dont, comme nous l'a dit son titulaire qui nous l'a présenté et joué, un orgue de roi fait pour un roi. Mmh. Donc c'est un certain roi Christian qui a construit ce château, qui adorait les belles choses et la musique, qu'il a reçu de sa sœur, et Compenius a juste eu le temps de l'installer quelques années après sa construction, et puis il est quasi mort devant, nous a-t-on raconté. Mais bon, vous entendrez dans l'extrait, ce qui est extraordinaire, c'est que ces tuyaux en chêne sonnent comme à l'époque. Donc vous allez entendre un instrument qui sonnait comme en 1610, parce qu'il est intact.
Thank you. C'est une pièce folle, hein, avec des matières nobles, notamment de l'ivoire, des décorations, comme tu l'as dit, un peu partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment même dans des endroits où elles n'étaient pas nécessaires. Finalement, on est allé chercher le petit détail à chaque fois.
Alors écoute, c'est de l'orfèvrerie, effectivement, les tirants. Donc quand on doit tirer les jeux, il y a des espèces de petites tirettes. C'est des visages en étain. Il a utilisé de nombreux bois donc, pour le meuble. C'est comme une grande armoire. Et puis de l'ivoire sur les touches, évidemment, les côtés des touches sont aussi décorés en argent. Enfin, c'était vraiment fait pour un monarque, hein. On le sent bien. D'ailleurs, le dit monarque avait fait raser le château construit par son prédécesseur qu'il ne trouvait pas du tout assez grandiose à son goût pour en construire un bien plus grand, bien plus beau, avec plein de bassins. C'est le Versailles danois, en fait, Frederiksborg, hein. D'ailleurs, le fils cadet de la reine actuelle s'y est même marié.
Mais parce que tu mets la main sur quelque chose aussi, c'est que c'est toujours une monarchie, ce Danemark.
Constitutionnel, absolument. Donc la reine Margaret, qui vient de fêter ses 50 ans de règne d'ailleurs, est très aimée. Je crois que 80% des Danois la plébiscitent et l'apprécient. C'est une reine artiste aussi. Mmh. Et c'est un pays où j'ai découvert que le côté artistique avait une importance énorme. Tant au niveau de l'architecture qu'au niveau de l'art de vivre. Donc, c'est un pays où les hivers sont longs et où on soigne ses intérieurs. Les maisons sont décorées absolument magnifiquement, même simplement, hein, mais il y a plein de petites plantes. L'œil est toujours, je dirais, enfin moi je n'ai vu que des jolies choses qui ont ravi mes yeux et qui m'ont beaucoup inspirée pour mes dessins avec les amis avec qui j'étais partie. On avait loué une magnifique maison au bord de la mer.
Ok.
Parce que ça, j'aime bien faire maintenant. On loue une belle maison qu'on ne pourrait pas se louer pour soi tout seul. Et puis, on y passe une semaine où on va visiter les environs, dessiner, bien évidemment. Il y a toujours beaucoup de dessins qui se passent. Et puis alors là, on est gâtés, hein, pour les sujets dans cette partie du Danemark. Ça m'a donné envie de découvrir, évidemment, plus de ce pays. Maintenant, quand, ça va être la question, parce qu'il y a d'autres projets en vue.
Ok. Tu parlais d'architecture, moi j'aimerais revenir sur quelque chose, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, et on a notamment parlé d'une église, qui a été construite au temps du christianisme catholique, et qui est évidemment d'une splendeur magnifique, et à la manière de ce qu'on a chez nous, eh bien, il y a eu un changement de courant, en tout cas, évidemment dans le canton de Vaud, le protestantisme a pris le pas sur le catholicisme pendant un certain temps, maintenant ça tend à s'équilibrer avec de moins en moins de gens qui de toute façon pratiquent la religion quelle qu'elle soit, mais donc chez nous on se retrouve avec souvent deux églises dans un village qui la majorité du temps sont vides, hein, ne le cachons pas. Là, au contraire, pour entretenir les choses, eh bien, ces monuments magnifiques qui, finalement, n'avaient plus tellement d'usage, eh bien, on aura trouvé d'autres vies.
Mais la vie, c'est ce qu'on lui donne. Mmh. Je prends l'exemple de l'église Saint-François à Lausanne, où l'organiste titulaire actuel, avec le pasteur d'ailleurs, sont des entrepreneurs. Ils se sont bien trouvés et ils ont décidé d'en faire un lieu de vie qu'on rendait dans le fond à la population. Donc il y a énormément d'activités qui s'y passent. Il faut juste s'en occuper et puis évidemment trouver des budgets pour ça. Ça demande juste qu'on s'en occupe. Et j'ai eu l'impression au Danemark qu'on aimait bien occuper les jolis lieux, on aimait bien les entretenir et surtout, ils aiment beaucoup faire des choses ensemble. On a beaucoup de terrasses où on boit beaucoup de verres. Tu vas à Copenhague, en tout cas, bon, c'était en été, tout est fait pour se rencontrer autour d'une boisson. Pas mal d'alcool quand même, hein, faut le dire. Hein.
Il fait froid l'hiver.
Oui, il fait froid l'hiver, absolument. Et où on débat, on discute et puis on probablement monte des projets. mais j'ai ressenti beaucoup de convivialité, contrairement à ce courant un peu chacun pour soi qu'on vit là dans notre société actuelle, qui peut être un peu pesant. Là-bas, j'ai vraiment senti que à tout moment, tu as un endroit pour t'asseoir et boire un verre, en tout cas ce qu'on a visité. Comme je te disais, c'est un pays qui a la surface de la Suisse, mais par contre, la plus haute montagne fait 200 mètres. Donc, il y a beaucoup de surface à habiter, beaucoup de restes de fermes, parce qu'on aime beaucoup avoir une indépendance, une autonomie par rapport à la nourriture. Donc, on favorise la culture et la nourriture kilomètre zéro, je dirais. Il ne faut pas non plus idéaliser, hein, j'espère que c'est conforme, mais y a une réflexion par rapport à une société. D'ailleurs, à Copenhague, c'est objectif équilibre carbone en 2025.
Hein. Ce qui est évidemment beaucoup plus court, ce qui a été vaguement discuté chez nous.
Ouais, et franchement, ils mettent le paquet. On a un métro hyper efficace, pas cher. On n'entend pas le bruit de la circulation à Copenhague, donc je présume qu'il y a énormément de voitures électriques. C'est très agréable. On a l'impression de respirer de l'air un peu plus pur que celui qu'on peut respirer encore chez nous. Beaucoup de préservation de parcs, mais ils ont des châteaux à préserver qui, évidemment, tous ont des énormes parcs, dont la plupart, sauf quand il y a évidemment des besoins officiels, sont accessibles à la population.
Ok.
Donc, y a un vrai partage. Je pense que la reine a aussi compris que si elle ne faisait pas ça, on ne donnait pas cher de l'avenir de la monarchie parce que maintenant, la population ne peut plus accepter qu'on entretienne ces domaines sans qu'ils puissent en profiter.
À fond perdu, évidemment. On parlait d'art et d'esthétisme. Tu me disais que même jusque dans les halles marchandes, tu avais été étonné.
Alors, c'est vrai que lors de mon premier passage au mois de juillet, j'ai donc fait un stage de dessin urbain avec une personne qui nous a emmenés dans des endroits insolites, dont ces fameuses halles qui peuvent être comparées aux halles de Bocuse, par exemple, à Lyon, où il y a énormément de personnes qui sont là et qui vendent les produits de leur ferme, où il y a des petits restos, où c'est un concentré de tout ce que le Dame Marc fait de beau et de bon. Dans un esthétisme, je t'ai montré des photos, hein, c'est absolument magnifique. Tout est arrangé comme si c'était un tableau, on aurait pu passer, mais 24 heures sur 24, toute la semaine, à dessiner cette recherche de mise en valeur de tout ce que la nature nous offre de beau et de bon. Avec beaucoup de respect, je trouve, pour les produits. Donc, c'était un vrai plaisir. C'est la première fois que je passais une journée à dessiner de la bouffe. Hein.
Sans doute pas la dernière fois, mais visiblement.
Non, parce que c'était vraiment bien. Et puis, on rencontre des gens. Comme je te dis, tout est fait pour être convivial. Il y a des grandes tables. Tu vas t'acheter ton petit lunch dans un deston. Et puis, tu t'installes. Et puis, tout le monde se parle.
On l'aura compris, tu retourneras au Danemark. Tu disais, tu as d'autres projets quand même. Mets-nous un peu l'eau à la bouche.
Alors, à la fin de l'année, je vais retourner en Égypte.
Ok.
J'y étais allée il y a 20 et 30 ans. Et il y a une descente du Nil en Darabeya qui est prévue. Donc, c'est un bateau avec 10 cabines. Ouais. Et puis, on va faire du train aussi là-bas. On a décidé on irait en avion quand même au Caire. Mais après, on fait tout en train et en bateau.
Ok, ben on se réjouit de découvrir cette aventure-là dans un prochain voyage-voyage et dans tes carnets de voyage au passage. Merci
oui,
Françoise.
Merci beaucoup Yago, bonne semaine.
Merci Paris à toi.
www.radionv.ch